Christophe Nijdam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste spécialiste du secteur bancaire chez Alpha Value. On va parler avec vous justement de ce secteur. Alors, vous dites dans une présentation récente que, quelque part, ce secteur a détruit de la valeur, la destruction de valeur sur ce secteur. Depuis 2007, une destruction massive, alors liée sans doute aux craintes après la crise des subprimes. On en est où aujourd'hui sur ce secteur bancaire? Il est toujours massacré en quelque sorte?
Alors, quand on parle un petit peu, disons d'abord de destruction de valeur, quelques chiffres pour situer l'ampleur de la destruction de valeur. Et évidemment, là, je ne m'exprime que sur les banques européennes que nous couvrons. Pour donner deux chiffres, avant la crise, la CAPI boursière de ces 39 banques que nous couvrons représentait à peu près 1 400 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle s'élève à 900 milliards après 400 milliards de recapitalisation. Alors que donc, on a une baisse qui apparente est de l'ordre de 30%. Quand on inclut les recapitalisations, la destruction de valeur est de 60%.
Alors, il y a eu effectivement des crises diverses, des banques ont été plus touchées que d'autres. Qu'est-ce qui a le plus pesé finalement sur ce secteur?
Alors, ce qui a le plus pesé sur ce secteur, évidemment, c'est à partir de la crise des subprimes, c'est la crise de confiance généralisée que cela a créé dans le secteur bancaire, avec comme conséquence ou externalité négative une crise économique d'ampleur historique. Qui dit crise économique d'ampleur historique, dit pour les banques évidemment beaucoup de provisions pour débiteurs douteux.
Avec ce qu'on a pu constater au mois le mois, voire le jour, pour certaines banques, l'impossibilité de se financer, donc un blocage à un moment donné du système bancaire et du système économique.
Tout à fait, plus qu'un blocage, en fait un grippage, un grain de sable, qui fait que même les banques les plus solides n'arrivaient plus à se refinancer sur le marché interbancaire. N'oublions pas qu'une banque saute avant tout sur une crise de liquidité et non pas sur une crise de solvabilité.
Justement, on a pendant de longs mois, même après la crise, dit que les banques ne se prêtaient toujours pas entre elles. Est-ce que de ce point de vue-là, on est revenu à un marché un peu plus serein? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne mieux en Europe?
Il est un peu plus serein, mais il a à chaque fois des coups de chaud. En fait, lorsque les banques ne se prêtaient plus entre elles, on s'est retrouvé avec des banques centrales, notamment la BCE, qui a fait justement office d'intermédiaire et qui est devenu non pas le prêteur de dernier ressort, mais en fait le marché interbancaire de dernier ressort entre banques. Alors, après la faillite de Lehman, le grippage a été très net. Et ensuite, on a eu deux autres crises de liquidité où les banques n'acceptaient plus de se prêter en telle et c'est donc la BCE qui a pris le relais. C'est la fameuse crise dite grecque en mai 2010. Et la troisième crise de liquidité, c'est la crise irlandaise de novembre 2010. Nous sommes aujourd'hui en mai 2011, ça va un peu mieux, mais l'on sait bien que certaines banques, notamment d'Europe du Sud, n'ont toujours pas accès à ce marché interbancaire et doivent donc se financer auprès de la BCE, comme par exemple les banques portugaises actuellement.
Oui, on pourrait dire que la Grèce, on en reparle à nouveau en ce moment, on est en plein dans ce sujet en Europe. Est-ce que ça veut dire qu'à nouveau, il y a des craintes sur ce secteur, que certaines banques, effectivement, pâtissent de ce qu'on va trouver comme solution, quelque part, pour la Grèce?
Alors, sur ce sujet-là, et probablement à la différence de certains de nos confrères, on a un point de vue assez différent. En ce sens que nous considérons qu'il y a une grande confusion sur les marchés, entre l'impact d'un abandon de créance, qu'on appelle le haircut, pour les banques qui détiennent de la dette publique grecque, et en cas de haircut, il y aurait des pertes pour ces banques, et puis tout simplement le rééchelonnement. Le rééchelonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un emprunt qui était peut-être dû l'année prochaine, on ne le rembourse pas l'année prochaine, mais quelques années plus tard. Dans le cadre d'un rééchelonnement, il n'y aura pas de pertes pour les banques européennes.
Donc ça veut dire qu'il faut vraiment distinguer. Pour l'instant, on n'a pas tranché sur ce sujet-là.
Alors, en tout cas, les autorités européennes ont essayé d'être pédagogues, mais manifestement, les marchés n'ont pas encore compris ce message pour différentes raisons. D'abord, parce que souvent, les marchés ne sont pas des techniciens de la banque. Et puis ensuite, peut-être aussi parfois parce qu'on peut avoir quelques acteurs de marché qui ont un intérêt direct à ce qu'il y ait des haircuts, donc une restructuration avec abandon de créance de la dette publique grecque, qui leur permettrait à ce moment-là de faire jouer leur police d'assurance sous forme des fameux CDS, Credit Default Swap, qu'ils ont acheté sur la dette grecque.
Effectivement, alors du côté de ce secteur, hein, il y a donc ces questions liées aux dettes souveraines, bien sûr. Et puis, on pourrait dire, et c'est récurrent depuis la crise de 2008, c'est bien sûr l'environnement réglementaire de ces banques. Et il y a pas mal d'investisseurs, quand on parle avec eux, ils disent, ah non, ce secteur-là, de toute façon, il y a un environnement réglementaire défavorable et les fameuses nouvelles réglementations Bâle 3. Qu'est-ce qui va le plus toucher les banques dans cette nouvelle réglementation ?
Alors, cette nouvelle réglementation, pour essayer de la simplifier, elle va toucher les banques au niveau de trois types de ratios. Les fameux ratios de solvabilité, là on sait que Bâle 3 finalement donne du temps au temps, puisque l'exigence qui est portée à 7% normalement a un échéancier de 2018. Le côté étonnant, c'est que certains régulateurs nationaux accélèrent le calendrier, et surtout vont demander à leur banque nationale un ratio supérieur aux 7%. Il y a notamment 7 pays qui vont demander un ratio supérieur à 7%. La Grande-Bretagne, l'Irlande, la Suisse, la Suède, l'Espagne, le Portugal, et je crois que je dois avoir fait le compte. Donc, première chose, des ratios de solvabilité plus élevés, mais d'après les calculs que nous avons faits, globalement, ça ne posera pas de problème aux banques. Deuxième chose, des ratios de liquidité qui, eux, n'existaient pas. Alors, les banques s'en plaignent, mais quand on regarde d'un tout petit peu plus près, finalement, ces ratios de liquidité ont pour impact au niveau des banques une hausse du coût de refinancement, et ces coûts de refinancement, elles ont clairement dit qu'elles allaient les répercuter aux clients. Et enfin, la dernière, disons, le dernier étage de la régulation, c'est ce qu'on appelle le ratio de levier, mais celui-ci est remis vraiment au calende grec, puisqu'on parle de 2019, et il est loin d'être acquis. Donc, de notre point de vue, la régulation, ça a été un souci pour les marchés, mais finalement, ça ne devrait pas impacter de façon trop négative les banques. Certes, avec plus de capitaux propres, la rentabilité des banques que l'on mesure au travers du return on equity va baisser. D'après nos calculs pré-crise et sortie de crise, on va passer de 17,5% à 12,5% à un horizon qu'on fixe aux alentours de 2015. Mais ces banques seront beaucoup moins risquées. Et donc, du coup, la rentabilité sera plus faible.
Mais peut-être avec plus assurée.
Des coûts des capitaux propres plus faibles parce que mieux assurés. Et donc, la création de valeur économique du secteur bancaire perdurera. On aura plutôt des banques un petit peu utilities, un peu moins casino, mais je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose pour l'économie.
D'où les craintes d'ailleurs que certains ont sur le financement des entreprises, puisque les banques vont être incitées peut-être effectivement à prendre moins de risques de ce côté-là.
Ça c'est un peu le point de vue des banquiers qui agitent sous forme de lobbying quelques craintes. Je ne crois pas qu'elles soient totalement justifiées, mais bon, là-dessus c'est aux politiques parfois peut-être de restimuler nos banquiers, tel qu'on l'a fait sur le marché français au pire de la crise.
On a aussi un environnement taux qui évolue, alors encore modestement, mais qui va évoluer pour les banques. Est-ce que ça peut avoir un impact, justement ?
Alors, l'environnementaux, la direction est claire, le timing, lui, est plus incertain. Après avoir eu des taux historiquement bas à cause de la crise, parce qu'on a inondé les marchés via les banques centrales de liquidités pour, appelons un chat, éviter l'effondrement total du système, la direction, désormais, c'est vers une hausse des taux. Alors, si on regarde au niveau de la zone euro et si on regarde le marché des futures, il est probable que les taux à court terme qui sont aux alentours de 1,50, 1,70 actuellement sur le Euribor seraient aux alentours de 2,5 d'ici un an. Alors, l'impact pour les banques, ben, il est différencié en fonction des cœurs de métier et des modèles économiques des banques. Les banques qui profiteront le plus bénéfiquement de cette hausse des taux inéluctable, ce sont les banques de dépôt. Par contre, celles qui ont des activités de marché hypertrophiées ne devraient pas en bénéficier.
En conclusion, est-ce qu'il y a, compte tenu de la valorisation des banques, les risques qu'on a évalués ensemble, mais aussi peut-être les opportunités, il faut s'intéresser à ce secteur-là. Un investisseur aurait de l'intérêt à aller choisir quelques valeurs bancaires en Europe ?
Alors, c'est en tout cas l'equity story que nous avons actuellement chez Alpha Value. Je vais vous donner quelques chiffres. Quand on fait du bottom-up, c'est-à-dire qu'on regarde le potentiel de hausse banque à banque, le secteur aurait un potentiel de hausse de l'ordre de 14%, alors que le marché dans son ensemble a un potentiel de hausse aujourd'hui de l'ordre de 11%, bon, ce qui n'est pas énorme. Par contre, quand on a une approche top-down et non pas valeur par valeur, et que l'on regarde un petit peu le poids du secteur bancaire aujourd'hui exprimé en pourcentage de la capitalisation boursière du marché, on a eu une période historique où, je simplifie, mais auparavant, en moyenne, le secteur bancaire représentait 18% de la capi du marché. Pendant la bulle que nous appelons la bulle de la dette, qui est tout simplement la fin des années 90 jusque le milieu des années 2000, à ce moment-là, le secteur bancaire est monté à 25%. Dans le cadre de la crise, retour de balancier. Et là, le secteur bancaire se situe aux alentours de 13%. L'analyse que nous avons faite, et qui est un pari, c'est que le secteur bancaire va remonter aux alentours de 18%. Il va retrouver pré-crise, mais surtout pré-bulle, son poids dans l'économie, ce qui est justifié parce que les banques sont indispensables pour financer l'économie. Et donc, sur la base d'un tel rattrapage, il y aurait un potentiel de hausse, non plus de 14%, mais d'à peu près 30%.
Pas la même chose. Merci Christophe Nijdam d'avoir fait le point avec nous. Rappelez que vous êtes donc analyste et spécialiste de ce secteur bancaire chez Alpha Value.
C'est moi qui vous remercie.